Bienvenue dans Nouvelles Impulsions, le podcast où on parle voyage et reconversion. C'est un podcast qui va t'aider à oser passer à l'action, pour oser rêver, oser voyager, oser créer. Je suis Ludivine de Happy Trek, et il y a quelques années, j'ai moi aussi décidé de reprendre ma vie en main. Je suis devenue travel planner, donc organisatrice de voyage, j'ai créé ma propre agence de voyage en solo, et aujourd'hui, j'aide les passionnés de voyage à créer eux aussi leur propre activité dans le tourisme grâce à des accompagnements et formations. Bref, j'ai pris de nouvelles impulsions et je vous aide à le faire. Et si j'ai réussi à oser sauter le pas, je suis sûre que tout le monde peut le faire. C'est mon but avec ce podcast. Alors en solo ou avec mes invités, je vous invite à des moments d'évasion autour du changement de vie, de la reconversion, de l'entrepreneuriat et toujours avec le voyage à l'horizon. Alors si vous aspirez à vivre une vie plus en harmonie avec vos envies, si vous avez besoin d'inspiration ou bien d'un coup de boost, embarquez avec moi pour prendre de nouvelles impulsions. Let's go pour le podcast du jour. Ah oui, avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'accueille Kevin Pilet de Jardin. J'espère que je prononce bien ton nom de famille, Kevin.
Oui, c'est bien ça. Bonjour, okay, les Évidents.
Ah. Salut. Alors, Kevin, il est le cofondateur de Workpacker. Tu vas nous parler, justement, Kevin, de ce qu'est Workpacker. Bienvenue déjà dans le podcast.
Bah, merci, je suis ravi. Trop cool.
Trop chouette. Moi aussi, en plus, on s'est rencontrés lors d'un événement où j'ai dû pitcher Happy Trek. Et c'est chouette, ce genre d'événement. Le réseautage, ça permet de rencontrer de belles personnes comme toi qui ont des projets super. Est-ce que tu peux nous présenter Workpacker, s'il te plaît ?
Ouais. Bah, Workpacker, c'est une nouvelle marque d'hospitalité, d'hébergement. On vient opérer, nous, des maisons qui peuvent accueillir entre 10 et 25 personnes aujourd'hui. Mais ces maisons, on les dédie uniquement à une cible qu'on appelle chez nous les voyageurs-travailleurs. C'est-à-dire d'un côté les entrepreneurs, les freelances, les nomades digitaux qui peuvent, en fait, dans nos maisons, un petit peu en co-living, réserver une chambre privée dans un espace partagé de 3 nuits à 3 mois, donc comme à l'hôtel. Mais ces maisons, on peut aussi les privatiser, là aussi pour des groupes. Alors, ça va du séminaire traditionnel au COMEX, au CODIR, etc. Mais on travaille aussi énormément avec, par exemple, des collectifs de freelance, des collectifs d'entrepreneurs, des agences qui, aujourd'hui, recherchent des maisons adaptées avec des aménagements comme quand on part en voyage en famille, entre copains, entre potes, voilà, avec grand espace extérieur, piscine, ping-pong, baby-foot, barbecue, du calme, etc. Mais l'idée, c'est qu'on vient aussi, évidemment, proposer tout l'aménagement dans ces maisons pour qu'ils puissent bien travailler. Alors, ça, aujourd'hui, ça paraît encore innovant quand on dit ça, mais dans les faits, on n'a rien inventé, sauf que aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on vient mettre des bureaux dans chaque chambre, ça peut être des écrans aussi. L'idée, c'est d'avoir un espace privé dans lequel je vais pouvoir faire mes calls, mes visios dans une chambre ou dans un bureau, dans un espace privé dans la maison, mais aussi avoir une terrasse, pouvoir bosser au bord de la piscine, pouvoir bosser dans un grand salon tous ensemble. Donc en fait, on a aussi l'aspect un petit peu coworking. L'idée, c'est que en fait, c'est vraiment l'expérience qu'on vient proposer qui se veut différente. On a d'un côté tout ce qu'on recherche sur l'aspect ultra local, donc les activités, la bonne bouffe, des partenaires vraiment locaux. Des actions associatives, tout ça dans un périmètre, on essaye en tout cas de maximum 15 kilomètres de nos maisons. Mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi accompagner nos clients quand ils sont là sur l'aspect développement professionnel. Donc en fait, on a un marketplace de partenaires sur place ou un peu partout qui vont aussi pouvoir les accompagner sur certains sujets, comptage, juridique, marketing, commercial, presque du climat, etc., etc. On essaye vraiment de A à Z de les accompagner dans la conception d'un séjour qui répond à leurs besoins. Ils viennent juste pour s'amuser et se retrouver entre équipes ou venir de manière individuelle, toi par exemple, Ludivine, pour explorer un nouveau territoire et en même temps en profiter pour travailler. On va être en mesure de t'accompagner sur la conception du séjour qui te correspond le mieux.
Voilà. Génial. Mais c'est tout un écosystème que tu as créé, du coup, c'est hyper complet, super.
On essaye, c'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, opérer des jolies maisons, tout le monde peut le faire. Voilà, demain, tu as une maison où tu crées une conciergerie, tu as plein de maisons en catalogue et tu accueilles des gens. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence dans l'industrie du voyage, mais dans toutes les industries, aussi en entreprise ou que sais-je, c'est l'expérience que tu vas pouvoir proposer aux clients que tu accueilles. C'est le nerf de la guerre, je pense. C'est ça qui fidélise aussi les clients. Et donc, cet écosystème, nous, on le veut vraiment local parce que Workpackers, Ça permet aussi, en fait, d'aider les territoires à accueillir une nouvelle typologie de clientèle qui, en fait, est déjà présente sur le territoire. Je sais pas, je pense par exemple à la Provence. Il y a énormément de gens qui profitent des vacances pour prolonger le séjour, par exemple, pour continuer à télétravailler sur place. Sauf que aujourd'hui, personne s'adresse à ces gens-là, ou en tout cas très peu, ou pas très bien. Et donc, on va amener avec nous les acteurs locaux du territoire, qu'encore une fois, des chefs, du yoga, de la pirogue en fonction de la destination. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des activités. Évidemment, on va pas proposer le quad sur les dunes dans les Landes ou au Maroc. On va plutôt proposer l'action associative pour nettoyer les dunes, pour faire du sauvetage côtier, pour faire tout un ensemble de choses vraiment spécifiques au territoire dans lequel on est. Mais c'est aussi cet écosystème dans lequel on est assez content, et il faut encore qu'on arrive à le développer. Mais c'est tous ces pros qui sont à dispo, en fait, de nos clients pour pouvoir les accompagner, pour faire, je sais rien, une fresque du climat, une fresque océane, un coaching en marketing. Si c'est 10 sales qui viennent chez nous, c'est comment les aider à travailler sur la stratégie de l'année prochaine, etc., etc.
Génial. En tout cas, bravo d'avoir lancé tout ça parce que ça, c'est très diversifié et finalement, ça permet de proposer du sur-mesure à tes clients. Et comme tu le sais, ça me tient à cœur.
Bah oui, c'est le plus important, je pense, le
tout comme.
sur-mesure.
Ouais, tout comme, tu vois, l'implication locale que tu mets sur les projets aussi que vous pouvez accompagner sur les nettoyages de plage, ô combien important. Et puis, c'est vrai que on habite tous les jours, tous les jours, oui, tous les jours, et tous les deux sur la Côte d'Azur. Et du coup, c'est pas facile de trouver des espaces pour travailler. Tu as souligné un point qui est important parce que ce soit des vacanciers qui viennent ou même en tant que résident ici sur la Côte d'Azur. Bon, peut-être que toi, t'es à Nice, hein, donc plus facile. Mais alors, Saint-Raphaël, Cannes, etc., c'est pas forcément très simple d'avoir un espace de coworking. Donc, ça peut être l'occasion aussi d'avoir de meilleures infrastructures. De ce que j'ai compris, du coup, tu vois, quand tu dis tu opères la maison, c'est-à-dire que tu repères la maison, tu en fais finalement un partenaire et tu l'aménages également. Tu as ajouté un bureau, une bonne connexion Internet. Comment ça s'organise?
On a deux modes de fonctionnement. On a un
Ouais.
mode de fonctionnement qui nous aide à développer plus rapidement notre catalogue, qui est le partenariat, l'affiliation. Mais encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est être des hébergeurs. Donc, on n'a pas vocation à devenir le nouvel Airbnb du télétravail ou de la réservation de groupe. Il y en a déjà qui font ça et qui le font très bien. Donc, nous, on vient s'appuyer sur ces partenaires-là. Je pense par exemple à Bed&Desk ou à Naboo. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est le mandat de gestion. C'est-à-dire que nous, on récupère l'exclusivité sur la maison, on vient accompagner les propriétaires de maisons qui correspondent à notre cahier des charges, qui n'ont plus envie de s'occuper de leurs biens, qui ne savent pas faire, qui ont envie d'accueillir une nouvelle typologie de clientèle, qui ont envie de mieux rentabiliser leurs biens. On récupère la maison, on l'aménage, et là, derrière, on vient accompagner, accueillir nos clients et créer une expérience vraiment complète en ultra local.
Top. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans ce projet?
Alors, avant de se me lancer dans ce projet, en fait, c'est une idée qu'on a eue en 2020 avec Joe, mon associé. Je travaillais pour une boîte qui s'appelle LaunchUp, qui commercialise des outils de relations clients et opérationnels dans le secteur de l'hospitalité. Voilà. Donc, on vendait de la e-conciergerie, et puis après, c'est devenu un CRM vraiment complet. Puis, ils ont développé un module d'interaction multicanal. Voilà, donc ils étaient vraiment leaders sur leur marché. J'ai bossé pendant 6 ans pour eux. J'ai eu l'occasion, j'ai eu de la chance de pouvoir les télétravailler pendant 3 ans en Floride. Et en fait, le constat, sans faire de storytelling de bas étage, mais en fait, c'est comme ça que c'est venu. En fait, t'as beau travailler sous les cocotiers, en bord de mer, c'est pas forcément une garantie que ça se passe bien. Parce qu'en fait, t'es tout seul chez toi toute la journée, malgré le fait que t'es à Miami. Si en plus ton boss, il veut pas te payer le WeWork à 400 $ par mois, en fait, t'as pas énormément d'alternatives à chez toi, à Starbucks, ou à des espaces de coworking, mais vraiment très aseptisés. Et en parallèle, Joe, qui était en Colombie, en même temps, on s'apercevait que ce soit en Floride ou en Colombie ou en Amérique latine au sens large, en fait, t'as énormément de nouveaux lieux ultra sympas qui se créent, ultra ouverts sur l'extérieur, hybrides, des auberges de jeunesse un peu nouvelle génération dans lesquelles les gens viennent bosser avec des potagers, avec une piscine, avec une âme vraiment très importante. Et le Covid est passé par là, on est rentré et on s'est dit qu'en fait, d'une très bonne idée en 2018-2020, Ce n'était plus qu'une bonne idée avec le Covid qui arrivait. Et donc, on s'est lancé et on a lancé Worldpackers officiellement en 2022. Voilà, donc, en fait, il y a eu un petit temps quand même de réflexion et trouver le courage aussi de se lancer. Mais ça vient d'un constat personnel, ouais.
Okay. Et du coup, ça a été quoi les étapes? Qu'est-ce qui était le déclic pour se dire, bah, ok, j'ai le courage de me lancer et quelles ont été les étapes?
Le courage de se lancer, c'est que j'ai travaillé pendant 6 ans chez LungeUp et franchement, j'ai adoré cette expérience. C'est top, mais ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait avec Joe à entreprendre. Et on avait fait une école de commerce spécialisée dans l'industrie du voyage. On voulait vraiment rester dans cette industrie-là, mais on n'était pas des devs. Voilà, donc, on savait aussi que si on innovait, c'était une innovation de service, pas forcément une innovation technologique. Et puis, en fait, très vite, on s'est rendu compte que tous ces lieux dont je te parlais tout à l'heure, mais aussi avec l'avènement du télétravail, du Covid, etc., on s'est dit bah, qu'en fait, il y avait vraiment une carte à jouer pour accompagner d'un côté tous ces propriétaires qui avaient fermé pendant plusieurs mois et qui donc devaient trouver des nouvelles sources de revenus, une nouvelle clientèle à attirer, mais aussi nous, le fait qu'on avait vraiment envie de créer des lieux avec une âme, une expérience qui nous soit propre. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire chez Worldpackers. Mais voilà, c'est un petit peu ça qui nous a poussé à nous lancer. C'est l'envie de changement, que j'avais un petit peu fait le tour aussi dans ma boîte d'avant. Et puis surtout, le frisson de se lancer dans cette aventure où au final, on savait ce qu'on voulait faire. Et tu vois, 3 ans après, on est à des années-lumière de la première idée un petit peu de base qu'on avait en tête.
Ouais, c'est toujours comme ça.
Pareil, pareil. Ouais.
Ouais, complètement. Alors, tu nous parles de Joe, mais qui est Joe et comment tu l'as rencontré? Pourquoi vous êtes associés?
Oh, je vais te raconter l'histoire officieuse. Hein. Joe, on s'est rencontré à Aix-en-Provence il y a une dizaine d'années. On a fait l'ESCAET, donc une petite école de commerce, mais spécialisée vraiment dans l'industrie du voyage, aussi bien voyage d'affaires que voyage vraiment en loisirs, agrément. Il était une promo au-dessus de moi, mais tu vois, après, une fois que tu as fini tes études, en fait, tu pars en stage à Paris, tout le monde se retrouve un petit peu à Paris. On est resté vraiment en contact et on a vraiment créé du lien. On est rendu meilleur pote avec Joe et on a réussi à s'embarquer mutuellement. On avait réfléchi à deux trois petites boîtes avant, mais qui étaient juste des réflexions où au final on n'avait aucun sens à toutes ces réflexions qu'on pouvait avoir. Quand tu essayes de réfléchir à des idées de business, en fait souvent tu as des idées de business qui sont complètement incongrues ou qui n'ont aucun sens. Ça, c'était les deux trois premières réflexions et arrivé Worldpackers sur la table. Et là, on s'est dit que en fait on avait cette envie de changement dans nos vies pro, parce que lui aussi, ça correspondait à un moment où il avait envie de changement, où il changeait de boîte. Lui, il était consultant dans le voyage d'affaires, donc on parle vraiment de problématiques d'achat, de problématiques de change management, etc. Et voilà, il avait aussi un petit peu fait le tour, et donc on s'est lancé.
Top. Et du coup, c'était quoi les étapes? Est-ce que vous avez, alors déjà avant peut-être de parler des étapes de création, de développement de votre projet, s'associer, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez déjà parlé vraiment en posant carte sur table de votre association? Qu'est-ce qui fait quoi? Est-ce que vous avez fait un pacte d'associés? Enfin, comment ça se passe de s'associer avec quelqu'un concrètement? En tout cas, comment toi tu l'as fait?
Pour l'instant, ça se passe bien. Je touche du bois. En fait, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vrai que souvent les gens nous disent vous êtes fou. Vous êtes fou parce que de temps en temps, les gens maintenant ont plus l'impression qu'on est associés que meilleurs potes. Et on le voit bien, nous, tu vois, dans notre vie quotidienne, on parle énormément du boulot. On parle peut-être un petit peu moins de nos vies perso, mais on essaye malgré tout de se garder du temps pour ça, d'essayer de se revoir aussi. Pour des temps un peu plus informels, tu vois, des week-ends, des semaines où, en fait, on essaye de poser un petit peu l'ordinateur et de garder cette relation Kevin-Joe qu'on avait avant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je me serais jamais lancé seul. Pas de courage. Ça, c'est la réalité aussi. C'est que j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'avais jamais le courage et j'admire énormément les gens qui ont le courage de se lancer seul parce que c'est compliqué. C'est déjà compliqué à deux, mais c'est, à mon avis, encore plus compliqué tout seul. Les étapes, elles ont été assez simples. En fait, la première étape, ça a été le nom. On a très vite trouvé le nom de la boîte. Le nom de la boîte, je crois qu'il arrive en 2018. Voilà, il n'est pas très compliqué, hein. Worldpackers, les gens comprennent assez vite, tu vois, le lien avec Backpack, etc., toute la vie un petit peu nomade. Et après, une fois qu'on s'est vraiment lancé, on a fait deux choses. Un, ça n'engage que nous, hein, mais c'est verbal, c'est entre nous. C'est que, pour rien au monde, Worldpackers viendra mettre à mal l'amitié qu'on a et qu'on avait pendant 10 ans avant de lancer la boîte. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. La deuxième chose, c'est que on a effectivement mis en place un pacte d'associés, mais on a aussi fait le choix, malgré ce que beaucoup de personnes ne nous recommandaient pas, c'est pas très français, mais t'as l'idée, c'est qu'en fait, on est à 50-50 dans la boîte. Beaucoup de gens nous disent, vous n'auriez pas dû faire ça parce que, bah, en fait, quand il y a des décisions vraiment stratégiques ou structurantes à prendre, bah, si vous n'êtes pas d'accord à un moment donné, bah, comment vous allez faire? La
Oui, mais
réalité,
comment
c'est
tu
qu'aujourd'hui,
choisis quelqu'un qui... enfin, comment tu choisis un 40-60 si finalement vous avez monté le projet ensemble, tu vois, c'est... enfin...
ça aurait pu être 51-49.
C'est
Et en
vrai.
fait, à un moment donné, la question s'est posée et on était à peu près OK pour le faire. Sauf que, en fait, c'était moi qui me retrouve avec 51% et ça me convenait pas. Voilà, je monte cette boîte avec lui, on est deux dans l'aventure et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit assez malin pour que, bah, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui nous bloque, on arrive à discuter et qu'on trouve des solutions. La réalité, c'est que jusqu'à présent, la question s'est pas posée. Voilà. À chaque fois, on a réussi à trouver un consensus où l'autre a réussi à suffisamment argumenter pour que bah, l'autre cède, si j'ose dire ça comme ça. Mais pour l'instant, on regrette pas du tout le choix qu'on a fait, bien au contraire.
Alors, je me permets une petite parenthèse. C'est quoi les points de friction que tu peux avoir avec un associé? Est-ce que tu as des exemples concrets? Alors, sans forcément que ça entre dans des données confidentielles.
On a mis du temps. Moi, le premier, et il s'est pas mal battu avec moi sur le fait de dire les choses. Parce que tes potes, tu crées une boîte, t'as pas forcément envie de. Des fois, t'as envie d'imposer tes idées, quoi, ou t'as envie de. T'en as un qui est peut-être plus bavard que l'autre en rendez-vous, ou qui prend peut-être un petit peu plus de place. Et c'est une réflexion qu'il m'avait faite. Voilà, je suis assez transparent là-dessus. C'est que, en fait, on a fait un ou deux rendez-vous au début. Et en fait, je prenais toute la place. Et donc, il a fallu que j'arrive aussi, moi, à travailler sur ça, sur le fait de dire, bah, il est aussi légitime que moi sur l'aspect, par exemple, commercial. C'était mon boulot avant à moi d'être commercial. Lui, c'était pas le sien. Mais en fait, aujourd'hui, il est totalement capable, évidemment, de gérer des rendez-vous commerciaux avec n'importe quel type de prospect ou de client qu'on peut avoir. Et tout à l'heure, tu me posais la question, j'ai pas répondu sur comment on a dissocié un petit peu les rôles. On a mis aussi du temps à dissocier ça, c'est-à-dire qu'au début, tu veux tout faire, tu veux avoir la mainmise, tu vois, t'es presque dans du micromanagement alors que t'es à deux. Tu vois, moi, j'avais un petit peu de mal à pas à faire confiance, mais à pas avoir toutes les infos sur certains sujets ou à vouloir, tu vois, imposer quand il faisait, je sais pas moi, il fait beaucoup la partie com et marketing, par exemple. Et en fait, au début, j'avais du mal à accepter des choses qui soit ne venaient pas de moi, soit ne me plaisaient pas forcément, ou qu'en tout cas j'aurais pas forcément fait comme ça. Et il m'a mis un tir une fois, clairement, lui il a pas de mal à dire les choses. Et en fait j'ai compris. Donc aujourd'hui j'essaye, tu vois, de soit de tourner un petit peu mieux mes réflexions, soit surtout de ne pas en faire, parce que un, je trouve qu'en fait j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est dévalorisant. Et deux, il me l'a fait comprendre. Et trois, en fait, tu crées une boîte, c'est aussi pour apprendre. Et en fait, ça me fait du bien de, un, ne plus m'occuper de certains sujets. Et donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment sur l'aspect partenariat commercial et développement de notre catalogue de maisons. Voilà, toute la conception un petit peu des partenariats, de l'expérience. Joe, il est vraiment sur l'aspect com, market, tech. Et j'ai réussi à lui refiler la partie compta. Et ça, je suis pas peu
Bravo.
fier. Je suis pas peu fier de cette partie-là, donc quand tu regarderas, je pense que ça te fera un sourire. Mais effectivement, voilà, il a toutes ces parties-là, et en fait aujourd'hui, ça fonctionne très bien entre nous, parce que justement, et ça fonctionne mieux entre nous aussi, parce que maintenant aujourd'hui, c'est très dissocié, et on sait qui fait quoi, et chacun aussi a un peu ses objectifs. En fait, on essaye maintenant de se structurer. Et toi, on a été des artisans pendant très longtemps avec une maison dans les Landes dans laquelle on a vécu pendant un an. Donc en fait, on a été des artisans du télétravail. On a validé que l'expérience qu'on avait pensée pendant 2 ans était vraiment l'expérience rendue à nos clients. Ils sont tous contents a priori, donc c'est qu'on n'est pas trop mauvais sur cette partie-là. Mais maintenant qu'on a presque une dizaine de maisons, on n'a plus le temps de tout faire et on n'a encore que deux aujourd'hui pour tout faire. Ça fait aussi partie des missions des mois à venir, c'est de réussir à se structurer sur l'aspect un petit peu humain dans la boîte, parce qu'à deux, c'est compliqué. Il nous faudrait des journées de, tu le sais toi aussi, hein, de 60 heures pour pouvoir tout faire et tout faire bien. Et c'est aussi ça, en fait, c'est que c'est de vouloir tout faire, je fais rien bien. Voilà, tu vois, c'est rien d'innovant dans ce que je dis, hein. Les gens vont pas être surpris d'entendre ça, mais en fait, quand tu veux tout contrôler, tu contrôles pas grand-chose. Tu veux de mettre ton nez partout et en fait, tu fais rien de réellement convenable ou d'abouti. Donc, en fait, ça m'a aidé aussi à comprendre ça, de vraiment dissocier les missions qu'on peut avoir chacun, dans la boîte.
Et ça a été quoi les étapes de développement du coup depuis l'idée ou depuis le fait où vous avez eu le déclic à vous lancer et où vous en êtes aujourd'hui?
Bah, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je me serais jamais lancé seul, on est resté un petit peu dans cette démarche-là très vite. C'est-à-dire que, en fait, on avait un PowerPoint de 10 slides et on s'est dit, tout seul à deux, on a un très fort réseau dans l'industrie du voyage, mais on n'a pas un réseau de malade mental à l'extérieur. On n'a pas fait HEC, on n'a pas fait les SEC, les DEC, etc. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on partait avec un petit peu de retard par rapport à d'autres entrepreneurs ou à d'autres boîtes qui se sont créées et qui cartonnent. Parce que on n'avait pas forcément un réseau, enfin un réseau en tout cas très spécifique. Donc très vite, on a essayé d'intégrer un incubateur qui s'appelle Provence Travel Innovation, qui est à Marseille. On a réussi à intégrer cet incubateur en 2021. On avait 10 slides, hein, à l'époque, pas de maison, pas de clients. Et en fait, ils nous ont accompagnés un petit peu pendant à peu près un an sur vraiment la structuration juridique, comptable. Ah, qui est pas forcément le plus rigolo, d'affiner aussi un petit peu notre stratégie, c'est-à-dire que tu lances ta boîte, tu veux encore une fois tout faire. Donc nous, à l'époque, on voulait acheter des maisons, mais évidemment, on n'a pas les moyens d'acheter des maisons. Puis après, on voulait faire de la location. Puis après, on voulait faire du Airbnb, chose que je te disais tout à l'heure qu'on ne voulait au final pas faire. Mais en fait, comme ça avance pas toujours comme tu veux, tu peux faire plein de trucs. Ça nous a aidé un petit peu à nous canaliser. Ça, pendant 10 mois, ça a permis un petit peu de structurer l'idée. Sauf qu'on a eu un peu de mal à trouver nos premiers partenaires immobiliers qui était prêt à nous faire confiance. Et donc derrière, on a intégré le Welcome City Lab à Paris, maintenant Paris Senco Tourisme, et c'était top. Voilà, pendant à peu près un an aussi, on a fait partie de ce programme d'accompagnement. Là, ce qui était plutôt chouette, c'est que Provence Travel Innovation, à l'époque, c'était vraiment que des projets papier. Quand on a intégré le Welcome City Lab, on s'est déjà retrouvé avec des entreprises qui faisaient des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, alors que nous, et ça c'est plutôt, en fait, ça nous a permis aussi de se maintenir la tête hors de l'eau. On était une des premières entreprises en une dizaine d'années d'existence du Welcome City Lab, sans produit et sans client. C'est-à-dire que quand on a intégré le Welcome City Lab, on n'avait rien. Mais on surfait encore en 2022 sur la vague Covid, la vague télétravail. Et donc, en fait, je pense qu'ils nous ont accepté aussi à ce moment-là parce que ça répondait à un enjeu de société et qu'ils se sont dit, bon, ces gars-là, ils vont quand même à un moment donné bien réussir à sortir quelque chose. Donc, on prend le risque et on va les accompagner. Et effectivement, ils ont eu raison parce que, bah, en fait, on a trouvé pendant notre incubation à PTI nos premiers partenaires, Pauline et Philippe, dans les Landes qui nous ont fait confiance et qui nous ont mis leur maison à disposition et qu'on a pu opérer pendant près d'un an. Et là, grâce à eux aussi, on a pu avoir nos premiers clients de tout type, individuels, groupes, etc. Voilà.
Top. Donc finalement, l'étape pour vous, ça a été déjà bon de on va dire contractualiser votre association, définir un petit peu la base, intégrer un incubateur, puis un deuxième incubateur, et après voilà de maintenant vous volez entre guillemets de vos propres ailes, vous êtes toujours incubé.
On vole de nos propres ailes.
OK.
On vole de nos propres ailes parce que tu vois les incubateurs c'est top et encore une fois tout dépend ce que tu veux venir chercher dans ces incubateurs. Moi je pense moi j'avais une énorme lubie par exemple d'intégrer un incubateur parce que tu as une étiquette, parce que tu vois dans ce monde un peu de l'entrepreneuriat et un peu de la chasse à l'image, essaye de pas trop être là-dedans, mais en fait si tu es incubé les gens pensent que, et en fait moi j'étais énormément dans cette approche-là, qui n'est pas forcément la meilleure, hein, mais en tout cas à l'époque j'étais là-dedans. Mais en fait, ça nous a aussi permis de nous structurer, par exemple financièrement, hein, parce que nous on est arrivé avec capital social, mais on a pu par exemple aller chercher une subvention avec Provence Travel Innovation, qui nous a aidé pendant un an à opérer notre première maison. En fait, absolument pas dans la soupe, parce que sans eux, on n'aurait pas pu derrière intégrer le Welcome, on n'aurait pas pu trouver du coup notre première maison, donc avoir nos premiers clients. Mais ça consomme du temps. Les incubateurs. parce que, bah, évidemment, tu as des rendez-vous à faire, des allers-retours si tu n'es pas sur Paris ou près de la zone d'incubation. Et puis, à un moment donné, bah, tu n'as plus le temps de passer, bah, justement, de passer du temps sur certains sujets, parce que, bah, quand tu montes 3 jours par mois à Paris, bah, c'est 3 jours où, en fait, tu développes pas ta boîte, et on n'avait plus le temps de faire ça. Et puis ça allait, en fait. Ça y est, maintenant qu'on est structuré, qu'on a une vision, et qu'on sait un peu où on veut aller, qu'on a une dizaine de maisons, aujourd'hui, on ressent plus le besoin, en tout cas à court terme. Peut-être que dans le futur, ça changera. Peut-être qu'on va intégrer, j'espère, pourquoi pas un incubateur, mais vraiment dédié à nos sujets, co-living, hospitalité. Mais des incubateurs un peu généralistes sur l'industrie du voyage, aujourd'hui, on en a plus énormément besoin.
Okay. Après, alors, on va peut-être redéfinir l'incubateur. On en a déjà parlé dans l'un des épisodes du podcast, notamment avec Loïc Sanchez de En Immersion. Mais incubateur, est-ce que tu peux le définir pour les auditeurs, auditrices, Kevin, s'il te plaît? À quoi ça sert? Et puis, tant qu'on y est, à qui ça s'adresse et comment on intègre un incubateur?
Alors, il y a différents types d'incubateurs. Tu as les incubateurs pour les entreprises vraiment très early stage, au tout début de la vie de la boîte. Et là, c'était le cas de Provence Travel Innovation, en tout cas nous à l'époque. Voilà, c'est des gens, ils ont une idée, ils ont 10 slides, et comment tu arrives à convaincre, en fait, cet organisme, qui peut être un organisme public ou un organisme privé, de t'accompagner pendant un certain laps de temps. Provence Travel Innovation, par exemple, c'est une structure d'accompagnement qui est composée de 3 entreprises. L'ESCAET, d'un côté, Marseille Innovation, qui est un autre incubateur à Marseille d'entreprises innovantes, et la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces gens-là, ces organismes-là, leur mission, c'est de venir valoriser l'innovation sur leur territoire. Et donc, le Welcome City Lab à Paris, c'est exactement la même chose. C'est comment ils peuvent accompagner des entreprises innovantes qui ont des nouvelles choses à proposer, que ce soit des innovations de services ou d'innovations techno, hein, d'ailleurs, dans l'événementiel, dans la gestion des déchets, dans la mobilité douce, dans plein de sujets. Moi, je parle beaucoup de tourisme parce que c'est l'industrie dans laquelle on est, mais il y a des incubateurs sur, j'imagine, la deep tech, la tech à son sens, enfin, voilà, tout un ensemble de sujets, future of work, etc. Mais leur mission à ces gens-là, c'est de, un peu comme des investisseurs en fait, mais sans l'aspect investissement, c'est de faire le pari sur des entreprises qui vont pouvoir accompagner, qui vont pouvoir aider à grandir, et qui vont pouvoir derrière lâcher dans le grand bain en disant, bah, vous voyez, on a accompagné Worldpackers, et Worldpackers aujourd'hui, bah, ça fonctionne, c'est 10 maisons, etc., etc. Voilà. Donc, c'est des structures d'accompagnement qui peuvent être financées par les organismes. Par exemple, Provence Travel Innovation est financé pour les startups grâce à la région Sud. Et donc, le job de Provence Travel Innovation, c'est de dire, bon, en fait, le pari qu'on fait sur les entreprises, il est bon, parce que c'est des entreprises qui continuent à vivre après la période d'incubation. Et donc, ça vient justifier le fait que la région investisse beaucoup d'argent sur l'accompagnement de ces entreprises. Après, tu as des programmes d'incubation qui sont payants, et où là, bah, ils prennent aussi un risque. Derrière, je pense que tu en as aussi qui prennent des parts dans les entreprises. Je crois que ça existe. Je crois que tu as des incubateurs un peu nomades aussi qui font le tour de différentes zones. Enfin, aujourd'hui, tu as énormément de programmes d'incubation. Il y en a énormément. C'est aussi ça. Il faut, je pense que c'est un petit peu le retour d'expérience que je peux faire, c'est de dire attention, un, à l'étiquette. Voilà. Et deux, attention à ce que ce soit vraiment bien adapté à l'industrie ou au service que vous êtes en train de développer. Ne pas faire l'erreur d'aller dans un incubateur qui va t'accompagner pendant 1 an, 2 ans ou même 4 ans, si derrière ils ont rien de concret. Faut être un peu égoïste aussi, hein. Dire, c'est important que l'incubateur prenne une entreprise dans laquelle il croit, mais c'est aussi important que l'entrepreneur, il intègre un programme qui va lui apporter. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Et donc, quels sont les partenaires avec lesquels ils vont pouvoir te mettre en relation? Est-ce qu'ils vont pouvoir te mettre en relation avec des financiers? Est-ce qu'ils vont pouvoir te permettre d'avoir de la visibilité dans les médias? Est-ce qu'ils vont organiser ou t'aider à participer à des événements professionnels? Tu vois, Provence Travel Innovation, c'était top, ou le Welcome City Lab aussi. C'est que, par exemple, on pouvait avoir des stands sur certains salons B2B ou B2C, mais nous, on a fait du B2B. À prix très, très, très intéressant pour des entreprises qui se lancent. En fait, ils t'aident aussi dans le développement, voilà, concrètement dans le développement.
Ça nécessite peut-être finalement en amont d'avoir déjà clarifié suffisamment le projet pour connaître quels sont tes besoins toi en tant qu'entrepreneur pour pouvoir développer ton entreprise là où tu veux aller avant de choisir l'incubateur quoi. Ok. Eh ben, merci en tout cas pour cette petite parenthèse, grande parenthèse sur l'incubation. Alors, il existe aussi des accélérateurs. Incubation, on est vraiment plus, comme tu le disais, majoritairement sur des projets qui sont en début de lancement, en phase de lancement, voire même de pré-lancement, comme ce que vous avez fait au départ. Et puis, il existe des accélérateurs. On est quand même plutôt sur des projets portés de type start-up. Tu parlais d'innovation. Tu nous as parlé précédemment d'innovation de service. Ça, c'est ce que vous proposez. C'est vrai que beaucoup d'incubateurs recherchent aussi une innovation plutôt tech. Voilà. En tout
Bah,
cas.
en fait, juste pour rebondir là-dessus, mais moi je pense que c'est un vrai sujet et un vrai problème aujourd'hui, c'est que nous, plusieurs fois, encore une fois, c'est des mots à la mode, mais plusieurs fois, on nous a dit, vous n'êtes pas une start-up, les gars. OK, pourquoi pas, moi dans les faits, ça m'est égal, mais en fait, vous n'êtes pas une start-up parce que vous n'êtes pas un logiciel, parce que vous n'êtes pas une boîte SaaS, parce que la tech n'est pas à 100% dans votre stratégie. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, ça. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, tu as énormément d'innovations de services qui cartonnent, qui peuvent avoir une scalabilité. Ça aussi, c'est des mots un peu pompeux, mais en fait, ces gens, nous, on se retrouve dans ce milieu-là. On n'était pas forcément familier avec ces sujets, mais toi, t'es pas une startup, tu peux pas scale, tu peux pas, enfin, toi, ta boîte, elle est pas scalable, tu fais pas fois 500% de croissance d'année en année. OK, fine. Par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer de manière vertueuse un produit rentable qui va pouvoir, sur la durée, un, pas être consommateur de cash comme peuvent l'être justement toutes ces startups aujourd'hui. On a des besoins évidemment de financement, mais des besoins qui sont beaucoup plus réduits, où on a une vision beaucoup plus claire de ce à quoi ça va servir. Effectivement, quand les gens ils investissent chez nous, ils savent qu'ils vont pas faire fois 500 sur leur mise de départ en 3 ans. Par contre, ils savent que l'argent il va être bien géré, que ça va pas être cramé dans le développement d'une nouvelle fonctionnalité ou dans le recrutement de 10 développeurs ou de 50 commerciaux. Mais ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ça mériterait de faire un autre podcast dessus, donc je vais pas être trop long. Mais effectivement, la première fois que tu te prends, bah, en fait, t'es pas une startup. Au pire, tu seras une petite PME de 4-5 personnes. Au début, tu te dis, mais comment ça? Bah, pourquoi je suis incubé alors avec pourquoi au Welcome City Lab, je suis quasiment l'un des seuls qui innove sur du service? Alors qu'à la base, ils prennent que des boîtes tech, c'est qu'à un moment donné, ils croient quand même que mon projet, ma boîte, elle a de la valeur, mais elle va pouvoir se développer aussi bien que ceux qui créent un nouveau logiciel, par exemple, dans l'hôtellerie.
Complètement, et ça soulève, tu vois, un questionnement. Alors, j'ai pas, peut-être ça existe déjà, mais toi, pourquoi pas envisager un nouveau format d'incubateur sur quelque chose d'un peu plus éthique. Éthique, oui, oui, et autrement, tu vois, sur quelque chose qui soit pas uniquement basé sur la tech. Parce que ça, c'est vrai que c'est assez problématique. J'ai moi-même été confrontée plusieurs fois à cette problématique avec Apitrek notamment, parce qu'il y a de l'innovation, mais elle n'est pas 100% tech. Et je trouve ça dommage parce que pour le coup, quand tu te lances sur un projet où il y a quand même un peu de technologie, mais qui n'est pas 100% basé sur une innovation logicielle, etc., bah, tu as besoin d'être accompagné, parfois par des personnes bah, du coup, qui sont plus expertes, soit dans le secteur que tu développes, le tourisme par exemple, ou en tout cas qui ont de l'expertise en entrepreneuriat ou sur des points spécifiques, en market, en juridique, etc. Et c'est pas toujours facile de trouver la bonne structure. Aujourd'hui, là, tu vas par exemple à la CCI, ils ont des bons accompagnements, mais pas forcément suffisamment spécifiques pour toutes les boîtes. Donc, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage. Je sais pas si.
Il y en a quelques-uns. Je pense par exemple à Open Tourism Lab. Il y a aussi, je crois, le Slow Tourism Lab
À trois.
qui a à trois qui accompagne, voilà, sur certains sujets vraiment très spécifiques. L'autre sujet, encore une fois, sans cracher dans la soupe, mais une des problématiques, je pense aussi, de certains incubateurs, et c'est pour ça que c'est, je pense, une très bonne idée d'envisager de créer ce propre programme d'incubation, même si ça demande énormément de travail. C'est que, un, c'est souvent très politique, les incubateurs, souvent gérés et financés par des collectivités, des territoires, des CRT, des politiques. Et donc, Les politiques n'ont pas les mêmes problématiques que les entrepreneurs, hein. Il faut justifier que bah, les boîtes qui sont incubées, elles répondent à des besoins, elles répondent vite aux objectifs qui leur ont été fixés. Deuxième sujet, et là je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est que souvent c'est des incubateurs qui sont créés ou qui sont gérés, mais par des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise. Et donc en fait, ça rentre jamais dans certaines problématiques, mais vraiment de fond. C'est-à-dire que on te demande très souvent comment ça va, Kevin, comment ça va le développement de la boîte, mais on te demande jamais comment ça va, toi, l'entrepreneur. C'est-à-dire que ceux qui créent des boîtes, ils le savent bien, c'est 90% de problèmes, 10% de bonnes nouvelles. Peut-être pas les bons chiffres, mais c'est à peu près ça l'idée. C'est que tu penses souvent ou quasiment toute la journée à des soucis, à comment mieux répondre à certains problèmes, que à se faire sonner la cloche parce que tu as signé un nouveau contrat, en tout cas, en début d'activité. Et en fait, moi, c'est un petit peu le seul reproche que je peux faire à ces organismes-là, c'est parce qu'en fait, ils prennent pas le temps de savoir comment vont les entrepreneurs. Ce que je veux dire, comment ils vont dans leur vie perso, comment ils voient le développement de leur boîte, comment ils voient le fait que, bah, en fait, ils se rémunèrent pas au démarrage de leur activité, comment ils sont soutenus aussi, et ça, c'est un énorme sujet, par leur famille, leurs conjoints, qui sont en fait, avec un peu de chance, un super soutien, qui prennent aussi beaucoup sur eux et qui font des fois le pari, de se dire, bah, en fait, je prends 3 ans un peu sur moi, avec un conjoint qui passe 70 heures, 90 heures semaine à bosser sur un projet, mais qui gagne pas un rond. Moi, j'ai cette chance-là, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et comme ils ont pas, eux, créé d'entreprise, ils ont pas ces questions-là. Voilà. Ils sont très terre à terre, très pragmatiques et c'est normal. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils passent un petit peu plus de temps à s'attarder sur le bien-être. Nous, on en parle dans nos sujets chez Worldpackers, soit ce bien-être perso, pro, etc. Passez un peu plus de temps à vous soucier de comment vont les gens que vous accompagnez.
Mais ce point est intéressant parce que c'est compliqué, je trouve, hein, d'accompagner des personnes, de connaître vraiment leurs problématiques, le fond du sujet, quand t'as pas toi-même, quand t'es pas toi-même passé par là. C'est comme coacher, former. Tu peux en fait te faire une idée. C'est comme quand tu vas devenir parent. T'imagines en fait comment ça va se passer. Et puis dans les faits, c'est pas forcément ce à quoi tu avais pensé. C'est comme créer une boîte. On a plein d'idées reçues, de voilà, moi je vais faire ça, ou le business plan va être de cette façon, et finalement, c'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est toujours un peu compliqué. Quand bien même, finalement, au quotidien, t'accompagnes, t'aides, t'écoutes des entrepreneurs, bah, ça reste un peu, peut-être un peu limitant, le fait de pas l'avoir
Bon,
fait.
voilà, on parle des incubateurs, mais en vrai, on pourrait parler de LinkedIn. Hein? LinkedIn est une vraie charge mentale, par exemple, en tout cas pour moi, parce que tu ne vois que des mecs qui te vendent des formations à 20 000 balles, qui te promettent de générer 100 000 euros en 3 heures de formation. Mais en fait, la réalité, c'est que tu as 95% des entrepreneurs qui sont comme moi, qui ont du mal à trouver la légitimité d'ouvrir leur bouche ou d'apporter de la valeur sur LinkedIn, parce qu'en fait, tu as un petit complexe au démarrage, en tout cas, d'infériorité, où tu te dis, bon, en fait, je suis pas légitime à dire que j'ai des soucis, à dire que ça se développe pas aussi rapidement que d'autres boîtes, etc. Et en fait, il y a un vrai sujet, je pense là-dessus, sur un accompagnement plus terre à terre des entrepreneurs, plus réaliste, en fait, à
Ouais, plus
faire.
réaliste et plus honnête. C'est vrai que comme tu le soulignes, parfois, alors tu parles de LinkedIn parce que tu es plus sur LinkedIn peut-être que sur Insta, mais sur Insta, c'est pareil, tu vois, des fois des posts, que ça sur tout type de formation d'accompagnement gagne X, je sais pas, gagne 5 000 euros par mois en 3 mois ou en étant sur ton transat à l'autre bout du monde et d'autres pieds en éventail quoi. Non en fait. Donc ouais, je te rejoins sur beaucoup de sujets sur cet aspect entrepreneurial. Alors on va repartir sur Workpackers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des lieux justement que vous avez pu intégrer sur la plateforme?
Alors, on a commencé dans les Landes, à Messanges, un petit village à une quinzaine de minutes au nord de Osgore. À la base, on visait pas du tout ce point-là, mais comme je te disais au début, on a eu du mal à trouver notre premier partenaire immobilier. Et en fait, on a été assez opportuniste parce que Pauline et Philippe, dans les Landes aussi, nous ont fait confiance. Et donc, on s'est lancé chez eux, une très jolie maison landaise à 5 minutes de l'océan. Et après, dans le développement du produit, on s'est vite rendu compte que, en fait, certains de nos clients qui venaient par exemple pour faire un séminaire à l'océan au mois de septembre, comme ils étaient contents de l'expérience qu'ils ont vécue chez nous, une de leurs premières questions c'était: bon les gars, quand est-ce que vous ouvrez à la montagne? Parce qu'en fait, dans 3 4 mois, on a notre séminaire de Noël, notre séminaire de ski, et en fait, on a envie de passer avec vous et de revenir dans une de vos maisons parce qu'on sait que vous allez pouvoir nous accompagner sur la création du séjour, que votre maison elle va être top. Enfin bref, tout ce que je t'expliquais au début de notre échange. Et donc en fait, une de notre stratégies, ça a été de pouvoir proposer très vite un différents produits, mer, campagne, montagne, mais aussi de pouvoir très vite proposer un peu les 4 saisons: ski, surf, vélo, voilà, tu vois, de pouvoir se dire, bah, en fait, un client qui vient chez moi dans les Landes en septembre, je peux le récupérer en hiver pour qu'il vienne faire du ski, et je peux le récupérer au mois de juin avant qu'il parte tous en vacances pour venir faire du vélo en Provence, par exemple. Et donc aujourd'hui, on a donc 7 maisons. On va en annoncer trois nouvelles très prochainement. On est présent dans les Landes, en Gironde, sur la Côte d'Azur à Cannes, en Provence. On a une maison au Maroc et on va bientôt ouvrir, et à Annecy aussi, en bord de lac, en bord de lac d'Annecy. Et on va en ouvrir une nouvelle là, au bord de lac à Talloire. On va ouvrir un chalet à Tignes et un co-living à Fronsac, à une quarantaine de minutes de Bordeaux.
Génial. Et comment vous faites pour décider quel lieu vous allez trouver? Est-ce que finalement c'est la région qui vous intéresse, l'activité? Est-ce que c'est la maison? Comment vous décidez quel lieu intégrer?
Alors, on pourrait penser que c'est très arbitraire, mais en fait, ça nous prend énormément de temps à trouver des lieux parce qu'encore une fois, je veux pas être la nouvelle plateforme avec 15 000 maisons ou appartements à proposer. Donc, nous, déjà aujourd'hui, on essaye de proposer des lieux qui soient sympas, qui soient sexy, qui donnent envie d'y venir, qui certes potentiellement sont un peu plus chers qu'un appartement ou qu'une maison un peu moins sympa, mais dans les faits, on essaie de travailler aussi avec nos propriétaires sur une cohérence de budget en fonction de la durée du séjour, en fonction de la typologie de clientèle, en fonction de la saison, etc. Ensuite, nous, on a un cahier des charges d'à peu près 150 critères très précis, où, en gros, s'ils remplissent pas un certain nombre de ces critères, alors il y en a qui sont très structurants, hein, je pense à la fibre, par exemple, je pense à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à une trentaine, quarantaine de minutes max d'une gare, d'une sortie d'autoroute, d'un aéroport, mais on essaye évidemment de privilégier la gare ou en tout cas les mobilités un petit peu douces. Et ensuite, c'est les services qui peuvent être proposés. Voilà. Et dernier point vraiment structurant, c'est que nous, on veut être une entreprise du voyage. Voilà, on propose l'hébergement, on propose le coworking, mais derrière, on propose de l'exploration au travers de notre expérience. Et donc, est-ce qu'il y a des centres culturels? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a hein, du sport qui est possible? Est-ce qu'il y a du yoga, des chefs à domicile? Et en fait, quand tu dis ça, tu as l'impression qu'il y en a partout. Mais on a aussi eu, nous, certaines propositions dans des régions qui aujourd'hui, par exemple la Corrèze, moi j'adorerais pouvoir proposer quelque chose au fin fond de la Corrèze, sincèrement. Mais un, selon où t'es, t'as la DSL comme on avait il y a 20 ans. Et deux, alors pas partout, évidemment, mais en tout cas, nous, la proposition qu'on avait pu avoir là-bas, c'est que la première gare la plus proche, elle était à 1 h 30. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. En tout cas, pas pour notre clientèle qui a besoin d'avoir de l'accessibilité. Ou alors, nous, on vend le fait que, ben, en fait, une fois que tu arrives chez nous, tu n'utilises plus la voiture. Parce que on va te faire livrer le vélo, parce que tu peux potentiellement aller dans le village à pied, parce que si tu as envie d'aller surfer, t'as pas ta bagnole à prendre et faire une demi-heure de route. Donc, tu vois, par exemple, le chalet à Tignes, il est en face du lac. Certes, Tignes, il faut y aller, mais en fait, tu as un bus direct depuis la gare la plus proche. Et après, tu es à 100 mètres des remontées mécaniques et tu es à 5 minutes du gars qui va pouvoir te louer ton matos de ski. Et donc ça, c'est des choses qu'on essaye de faire partout, sur toutes nos maisons. Mais l'idée de Workpackers, alors, c'est pas vrai partout, parce que tu vois, par exemple, à Cannes, on est quand même sur une maison de ville en plein centre-ville, à 5 minutes à pied du Palais des Festivals. Mais on est quand même sur une offre, nous, qui se veut périurbaine. Tu vois, pas forcément en plein cœur de Marseille ou de Paris. En tout cas, c'est pas notre stratégie actuelle. Donc, il faut que ce soit accessible. Et une fois que tu es sur place, faut pas que tu dises, mince, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là? Tu
Qu'est-ce
vois,
que
dans
ouais.
cette maison, je peux plus bouger, je suis bloqué. Donc, en fait, je peux pas aller explorer les alentours. Je suis obligé de me louer une voiture. Mais en fait, si je reste 15 jours, parce que nous, on essaye d'inciter les gens, évidemment, à prendre en main ces problématiques de slow work, slow tourisme. Donc, en fait, quand tu proposes du slow tourisme, donc de proposer aux gens de rester plus longtemps chez toi, pas leur proposer pendant un mois de se louer une voiture. C'est pas possible. Donc, quelles sont les alternatives ou les solutions que tu peux venir leur proposer. Et donc, il faut que la destination, que les acteurs locaux, ils soient aussi en mesure de pouvoir proposer des alternatives. Et ça, c'est un vrai sujet. Encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais comment on arrive à embarquer les territoires ou les collectivités avec nous dans le fait de pouvoir proposer toute l'année certains services. Je pense à Messanges, mais c'est vrai aussi à Annecy, c'est vrai au fin fond de la Provence, c'est vrai partout. Tu as certains lieux où en fait les prestats d'activité, ils bossent 3-4 mois pour le chiffre, et le reste de l'année, soit ils vont skier, ils vont faire leurs activités, ils font ça, ils partent en Thaïlande pendant 4 mois, mais en fait, il n'y a plus personne. Tout le monde tire le rideau, t'as plus un café, t'as plus un resto, t'as plus rien. Et donc, comment nous, on arrive aussi à faire comprendre au territoire que ils ont intérêt en fait à dynamiser aussi les acteurs locaux parce que c'est toujours ça de pris, tu vois. Et donc nous, quand on dit en fait à la collectivité de Messanges ou de Gordes ou de je ne sais où qu'en fait certains partenaires, on est en mesure de pouvoir leur amener plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires qu'ils n'auraient pas été chercher tout seuls ou qu'ils n'auraient pas fait au mois d'avril parce qu'habituellement, ils ne bossent pas, en fait, tu as une vraie réflexion là-dessus à avoir. Mais si les territoires ne sont pas prêts à engager des réflexions là-dessus, c'est compliqué. Et ça fait aussi partie de nos critères de sélection, c'est de voir aussi comment vivent les lieux dans lesquels on veut accueillir nos clients.
Complètement, mais c'est sûr que si ça vient pas finalement des politiques et bon, des territoires, parce que ça nécessite de l'investissement, c'est clair que entre travailler 4 6 mois dans l'année, on le voit bien dans notre région ou finalement à la montagne également sur sur l'hiver et puis la saison estivale. Entre finalement travailler 4 6 mois et être rentable et être présent toute l'année et se tourner les pouces ou en tout cas perdre de l'argent parce que ça nécessite d'être présent en investissement personnel, etc. Le choix est vite fait. Et sauf que pour avoir un tourisme plus durable qui implique d'avoir finalement des flux qui soient continus, ça nécessite de réfléchir sur tout ça et puis de mettre un peu d'investissement sur les prestataires locaux, quoi.
Ouais, ça demande un investissement, mais plus de temps et de réflexion que financier. Je pense par exemple à notre partenaire qui loue les vélos à Messanges. Il cartonne de mai à septembre-octobre. Le reste de l'année, le magasin, il est fermé. Par contre, Ludovic, ce qu'il nous a dit, c'est: vous avez un besoin, mon magasin, il est fermé, mais je vous amène quand même les vélos. Voilà, je crache pas dans la soupe sur le fait que peut-être au mois de décembre ou au mois de février, j'ai 10 vélos qui soient loués pendant une semaine, que ça m'apporte, alors je dis n'importe quoi, mais 500 euros, alors qu'en fait, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller chercher les 10 vélos qui sont déjà prêts de toute manière dans mon magasin, les charger dans ma voie, dans mon camion, te les amener et revenir une semaine après les rechercher. Voilà, je pense à Pacom aussi, prof de surf, qui aujourd'hui a décidé de se lancer tout seul dans son activité. Donc c'est aussi ce genre de partenaires que nous, on essaie de privilégier. C'est des acteurs ultra locaux qui vont proposer des services qui ne soient pas des services un peu usines. On ne parle pas de cours de 30 personnes, on parle de cours plutôt particuliers ou privés. Pacom, il est aussi bien content que potentiellement dans certaines périodes de l'année, alors juin, juillet, août, évidemment, il n'a pas besoin de nous, mais avril, mai,
Les ailes de
potentiellement,
saison.
t'as quelques clients de temps en temps qui viennent, il est dispo, et hop, il va faire son petit cours, il est content. Nos clients sont évidemment contents parce que Pacom, c'est un super mec, qu'il fait des super cours, et en fait, tout le monde est content. Donc, ça demande pas un investissement financier de la part des territoires. En tout cas, quand on parle d'ultra local, d'office de tourisme, tu vois, par exemple, de Messanges, ou de Gordes, ou de ça. Par contre, ça demande peut-être un peu plus d'investissement sur les CRT, les ADT, c'est-à-dire les comités régionaux de tourisme. Mais moi, je vous en parlais pas plus tard qu'il y a 2 jours, petite table ronde, c'est que en fait, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la priorité malheureusement des territoires, parce qu'aujourd'hui, les filières touristiques sont souvent planifiées plusieurs années à l'avance. Par exemple, le plan de développement jusqu'à 2025 ou des choses comme ça. Et souvent aujourd'hui, c'est autour du cyclotourisme, de la mobilité douce, ou des familles, ou des choses comme ça. Mais pour moi, ils ont tort. Alors, certains diront que je prêche pour ma paroisse, mais je pense qu'ils ont tort de pas vraiment se focaliser aussi sur notre type de clientèle qui, en fait, est hybride. Nos clients, déjà, un, ils sont pas sujets à la saisonnalité, ou à la rigueur, une saisonnalité inversée, parce que tu pars pas faire, en tout cas, un mois de télétravail en juillet-août quand c'est bien cher et qu'il y a tout le monde sur la destination. Tu pars pas faire un séminaire a priori en juillet-août. Donc, nous, nos clients, ils restent plus longtemps, ils consomment mieux, ils ont un pouvoir d'achat qui est pas délirant. Donc, en fait, ils peuvent aussi faire vivre les territoires, sauf qu'ils sont déjà sur place. Toi, tu as des mots à la mode, leisure, workation, etc. En fait, acteurs du tourisme, parlez à ces gens-là, adressez-vous à eux, parce qu'en fait, ils sont déjà sur vos territoires. Il y a des acteurs comme nous, mais comme d'autres, qui essayent de les adresser sur des sujets spécifiques. Nous, c'est l'hébergement. Mais si les territoires prennent pas à bras le corps ces problématiques-là, ça peut pas fonctionner. Voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. C'est que c'est une clientèle d'affaires qui consomme comme un client loisir. Voilà. Et donc, ça permet de dynamiser, de faire vivre des territoires ultra-ruraux et d'apporter une nouvelle valeur, une nouvelle clientèle qui fait vivre aussi ces territoires.
Génial. En tout cas, c'est un très beau projet d'entreprise. Bravo de l'avoir développé en duo avec Joe. On l'oublie pas.
Joe, il est en Franche-Comté, tu vois, par exemple. Il est en Franche-Comté, dans un petit village qui s'appelle Ronchamp. Et c'est des sujets aussi qu'on essaye d'avoir avec ces territoires-là. Parce que moi, je suis à Nice-Cannes, donc on est sur une clientèle et une typologie de voyageurs ou en tout cas d'activités touristiques qui sont bien différentes. Mais partout en France, en fait, à ces sujets-là, on pourrait parler de la Bretagne, de la Normandie, de l'Alsace, des Alpes. Voilà, c'est des sujets, on a quoi faire, quoi.
Ouais, complètement. La France est vaste pour ça. Et bah, Kevin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu par la positive à cette invitation
Bah, avec
de
plaisir. Merci beaucoup à Tom
l'inter.
pour l'invitation. C'était top.
Trop chouette. Et puis, pour découvrir vos lieux, comment ça se passe?
Ça se passe bien. Il faut aller sur workpackers.co
Ok.
pour avoir tout notre catalogue de maisons. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, top. Pour rappeler, du coup, vous avez finalement deux types d'offres. Une offre où on peut venir rejoindre l'une des maisons sur des dates spécifiques. Et puis une partie plutôt pour des personnes qui organiseraient des séminaires, des entreprises, des agences.
Exactement. Alors j'en profite, on a potentiellement trois offres. On a effectivement des maisons qui accueillent des individuels et des groupes. Et donc si toi, par exemple, Ludivine, tu as envie de te faire 15 jours ou un mois dans une de nos maisons, bah là aujourd'hui, par exemple, tu peux venir à Cannes ou au Maroc ou très prochainement à Fronsac. Et là, tu te réserves une chambre de 3 nuits à 3 mois. On a d'autres maisons qui sont exclusivement dédiées à la privatisation. Annecy, Tignes très prochainement, la Provence, les Landes, à Messanges, etc. Et de temps en temps, on s'auto-privatise des maisons pour organiser ce qu'on appelle des co-living thématiques. Et donc, pendant quelques jours, on réunit une clientèle particulière. Par exemple, au mois de mai, on fait un co-living dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et donc, pendant 5 jours, on va réunir des entrepreneuses qui se sont lancées ou pas à venir vivre avec nous pendant une petite semaine, avoir un cours de surf, un chef à domicile, mais surtout des ateliers, du coworking, de l'émulation collective. Et ça, on peut dupliquer les problématiques à l'infini, et c'est des choses qu'on essaye de faire. Voilà.
Trop chouette. C'est quoi les dates en mai?
C'est
Et les
du
lieux?
13 au 17 mai à
Ok.
Messanges dans les Landes, donc du lundi au vendredi.
Bon, mesdames, venez nombreuses.
Merci
Trop
beaucoup.
chouette. Merci à toi, Kevin, et puis à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup, bonne journée.
Salut, bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier, pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous, pour voyager plus souvent? Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst, mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt!